sur 103,5.
En République démocratique du Congo, les droits des enfants ne sont pas toujours respectés. Bon nombre d'entre eux sont soumis à un mauvais traitement par leur propre famille ou par des tierces personnes. Pour une raison ou une autre, ils sont battus et même parfois torturés jusqu'à ce que la mort s'ensuive. C'est le cas de 3 décès d'enfants enregistrés en l'espace de 4 mois dans la ville de Kolwezi. Autre constat, de plus en plus d'enfants sont victimes des viols ou encore livrés au proxénétisme et à la drogue. Que dit la loi congolaise sur le droit des enfants? Nous avons Marcel Ngombo dans ses studios. Marcel, bonjour.
Bonjour Gia, bonjour à tous.
Et nous avons aussi Maître Dominique Amwandu qui nous revient après un long voyage à l'extérieur du pays. Bonjour Maître Dominique.
Bonjour Marcel et bonjour Gia.
Alors Maître, on vous retrouve dans quelques instants. Marcel, la première question qu'on peut se poser, est-ce qu'en République démocratique du Congo, les droits des enfants sont réellement respectés?
En tout cas, sous le texte, on dira oui. Il y a aujourd'hui une nouvelle loi qu'on appelle la loi portant protection de l'enfant, loi promulguée le 10 janvier de cette année par le président de la République. Selon les juristes, non seulement cette nouvelle loi réaffirme le droit reconnu à l'enfant dans la convention adoptée par les Nations Unies en 1989, mais la loi insiste également sur la prise en compte des intérêts supérieurs de l'enfant. Bien entendu, Gérard, quand on parle de l'enfant, on parle de toute personne âgée de moins de 18 ans. Bref, cette loi protège l'enfant dans sa globalité, c'est-à-dire qu'elle renferme tous les aspects liés à la protection sociale et judiciaire de l'enfant, dans la famille et aussi dans, au sein de la communauté. Il y a donc des sanctions prévues pour toute forme d'atteinte à la dignité des enfants.
Mais bien souvent, ces droits des enfants sont bafoués au sein de leur propre famille et surtout dans la commune.
Dans la communauté, justement, Gérard, c'est dommage et c'est d'ailleurs le combat des ONG de lutte pour la protection des droits des enfants et même aussi du ministère du Genre et Famille. Ils plaident tous pour la mise en œuvre effective de ce texte. C'est le cas à Kolwezi dernièrement. Des activistes de la société civile et quelques officiels ont organisé une marche pacifique pour dénoncer des cas de décès d'enfants suite au mauvais traitement subi de la part de leurs parents. Suivant Madame Kungwa, chef de service du Genre et Famille à Kolwezi. Elle était l'invitée de l'émission Capi Action du vendredi dernier.
Et effectivement, en matière de protection de l'enfant contre les maltraitances et les mauvais traitements, l'article 9 de cette loi prévoit qu'aucun enfant ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. Ça, c'est l'article principal sur lequel je peux me baser concernant la protection des enfants contre les mauvais traitements. C'est-à-dire que cette loi renferme toute une partie des sanctions qui sont prévues à l'encontre des auteurs des maltraitances ou à l'auteur des personnes qui commettraient des infractions sur des enfants. Je prendrai par exemple l'article 147 de cette loi qui protège les enfants contre les coups et les blessures volontaires, c'est-à-dire que ces coups et blessures sont volontaires sur l'enfant sont punis de 3 à 6 mois de servitude pénale. Et c'est également, cette infraction est aggravée au fur et à mesure que cette infraction aurait posé, par exemple, un handicap sur l'enfant ou cette infraction aurait entraîné la mort. Donc, il y a tout ça qui protège l'enfant. Il y a la protection contre son intégrité physique, il y a la protection contre son intégrité morale. Tout cela est renfermé dans la loi portant protection de l'enfant.
Voilà, donc c'est triste. Des enfants battus par leurs parents jusqu'à provoquer même leur mort. L'un pour vol d'argent et l'autre pour vol d'importable. Alors pour ces cas précis, que prévoit la loi, Marcel?
C'est justement le sens qu'on vient de suivre. C'était Madame Anita Mvidia, qui est assistante juridique au Bureau international catholique de l'enfance, qui nous parlait en fait de dispositions légales par rapport à tout ce qui est mauvais traitement infligé aux enfants. Peut-être qu'on a retrouvé le son par rapport à Madame Kungwa pour écouter ce qui s'est passé à Kolwezi par rapport à cette marche.
Oui, nous avons organisé la marche de revendication sur le droit de l'enfant suite à la tuerie des deux enfants qu'on avait tués à Louisou et à Kasulo, l'un répondant au nom de Yannick et l'autre au nom de Nathan, le 16 février 2009. Le garçon, Yannick, c'était lui qui avait pris, je ne sais pas, 27 000 francs congolais d'une maman vendeuse. Et puis Nathan, lui, on lui a dit que c'était lui qui avait volé l'appareil portable.
Mais c'est bon de voir que la loi prévoit des sanctions, mais comment procéder pour porter plainte devant les instances judiciaires?
Là également, selon Madame Anita Mvidia, la loi est claire pour ces genres de traitements infligés aux enfants, notamment pour ce qui est arrivé à Kolwezi. C'est soit le ministère public qui doit mettre l'affaire en justice s'il a connaissance des faits, ou alors toute personne qui a été témoin de ces traitements infligés aux enfants. Suivant encore une fois Madame Anita Mvidia.
Le ministère public a ce qu'on appelle la capacité de poursuivre tous les auteurs contre les abus, non seulement sur des enfants, mais même sur des adultes. Le ministère public devrait se saisir d'office de ces cas, sur soit dénonciation d'une personne ou soit d'office s'il a appris. Il a la possibilité d'ouvrir une action judiciaire contre ses parents et ses parents seront sanctionnés. On n'interdit pas aux parents de punir leurs enfants ou d'essayer de faire en sorte qu'il y ait une certaine dans la maison, mais on demande à ce que ce soit administré en tenant compte de l'humanité et du respect de la dignité de l'enfant. Il ne faut pas oublier que cette loi dit aussi que en son article 192, toute personne a l'obligation de dénoncer toute forme de violence physique ou morale infligée à un enfant. La non-dénonciation des violences commises sur un enfant vous rend susceptible d'être poursuivi pour payer des amendes.
Voilà, alors Marcel, à moins que vous ayez autre chose à ajouter, sinon on s'arrête là.
Tout à fait, Gérard. Peut-être on pourra ajouter qu'il est temps de passer vraiment à l'œuvre par rapport à cette loi. Il y a beaucoup de dispositions qui ont été prévues dans cette nouvelle loi, mais qui jusqu'à présent ne sont pas encore en application.
Voilà, on va accorder la parole à notre invité, Maître Dominique Amandou, de l'ONG Avocats sans frontières. Dans quelques instants, avec vous, on s'arrête là et bonne semaine.
Merci.
Okapi, fréquence de la paix.
Maître Dominique, vous êtes avec nous et bonjour.
Bonjour, JR.
Alors, que peut-on ou quand est-ce qu'on peut parler de mauvais traitements infligés aux enfants?
Merci beaucoup, JR. Nous allons d'abord préciser qu'avec l'avènement du code portant protection de l'enfant, les législateurs congolais ont voulu accorder une protection spéciale à l'enfant parce qu'avant, il y a des infractions qui étaient prévues dans le code pénal ordinaire qui prévoyait des sanctions pour des actes causés sur les enfants et causés sur les êtres humains d'une manière générale. Mais avec cette loi, on a voulu accorder une attention particulière et une attention spéciale à l'enfant. Donc, par acte des mauvais traitements ou des maltraitances à l'enfant, on peut citer les coups et blessures, on peut citer les actes de torture, on peut citer d'autres, les faits d'infliger à l'enfant des souffrances aiguës et d'actes odieux, des cruautés et des brutalités excessives qui ne tiennent pas compte de la vulnérabilité de l'enfant, de sa fragilité et quelles que soient les circonstances dans lesquelles ces actes sont posés.
Voilà, alors donc il s'agit là des mauvais traitements, mais on a comme l'impression que il y a beaucoup d'infractions qui entourent ces mauvais traitements. Vous avez cité les coups et blessures, les souffrances infligées aux enfants. Là, je peux encore aller plus loin en disant la privation même de droits fondamentaux, droit à l'éducation par exemple, droit à la nourriture. Tout ça constitue quand même des infractions. Est-ce que quand il faudrait maintenant sanctionner, l'homme sera passible à toutes ces sanctions ou peut-être ça sera d'une manière isolée?
Non, quand on arrive à sanctionner, pour qu'on puisse arriver à sanctionner, on doit établir les faits posés et les qualifier par rapport à la loi. On ne peut pas s'en sanctionner d'une manière abstraite. C'est quand il y a un fait précis dont l'auteur est bien identifié et on examine que les éléments constitutifs de cette infraction sont réunis et établis à charge d'une personne, à ce moment-là, on peut, devant la justice, lui appliquer la sanction requise.
Mais là, carrément, ça relance le débat autour du modèle de formation que les parents doivent normalement donner à leurs enfants. Parce que dans les cas de la formation, les parents peuvent également punir leurs enfants.
Effectivement, la loi mais n'exonère pas les parents ou la loi n'enlève pas aux parents la responsabilité qu'ils ont sur les enfants de veiller à leur éducation. Et même sur le plan de la jurisprudence, on reconnaît un droit de correction à tout parent pour les enfants. C'est pour cela que, à côté des droits des enfants, la loi prévoit aussi des devoirs des enfants. Les enfants doivent être obéissants, doivent se soumettre aux prescriptions et dispositions arrêtées dans le cadre familial pour leur épanouissement. Et l'enfant qui s'est méconduit, la loi prévoit même des mesures pour les parents afin que cet enfant soit réorienté et rééduqué. Donc la loi prévoit aussi bien des droits que des devoirs pour les enfants.
Alors parlons de ce fameux code qui vient d'être promulgué. Normalement la loi c'est la protection pour la protection des droits des enfants. Est-ce que c'est cette loi protège également les enfants en rupture familiale?
Effectivement, la loi protège tous les enfants. C'est ainsi que la loi fait la différence entre les enfants en situation normale, les enfants en situation exceptionnelle, les enfants en situation difficile, les enfants pendant les conflits armés. Donc la loi a essayé d'analyser toutes les situations auxquelles l'enfant peut être confronté et proposer une protection adéquate.
Oui, mais parlons des enfants en rupture familiale. Dans bien des cas, bon nombre d'entre eux se livrent à des actes de vandalisme et également des cas de viol sont enregistrés. C'est comme ce que nous venons de suivre au niveau de Colosie. Un enfant en rupture familiale qui a été arrêté, disons, battu par la population parce que il avait volé de l'argent. On a enregistré un cas de viol, de vol, et cet enfant a subi quand même l'agression de la part de la population. Est-ce que ce n'était pas une légitime défense?
Non, dans ce cas, on ne peut pas...
Peut-être l'État condamne la population?
En principe, nul n'a le droit de se faire justice. Lorsque l'enfant a commis une infraction, et c'est ce qu'on appelle l'enfant en conflit avec la loi, cet enfant doit être appréhendé et conduit devant l'organe de la loi pour que la procédure puisse être suivie et pour que les sanctions appropriées soient prises.
C'est parce que les tribunaux pour juger le cas des enfants.
Non, il y a le tribunal, la nouvelle loi portant code de protection de l'enfant vient de mettre sur pied des tribunaux spéciaux pour enfants, les tribunaux de l'enfant. Mais ces tribunaux ne sont pas encore installés. Mais au sein de chaque tribunal de paix, il y a une chambre spéciale de l'enfant délinquante. Et c'est cette chambre-là qui est chargée d'examiner les cas des enfants en conflit avec la loi et de proposer des mesures et des sanctions appropriées pour garantir et favoriser le reclassement ou la réintégration de cet enfant et son épanouissement. C'est pour cela que toute personne qui se rend justice en infligeant des mauvais traitements, des actes de torture aux enfants, quelles que soient les raisons ou le mobile de ces actions, doivent être poursuivis et sanctionnés parce que nul ne peut se faire justice.
Oui, maître, on revient. Merci, chers auditeurs, d'être des nôtres et surtout de nous accompagner au cours de ce voyage à travers le pays. Si vous nous rejoignez, bienvenue sur la fréquence de la paix. Nous poursuivons notre entretien avec maître Dominique Kamandou, de l'ONG Avocats Sans Frontières. Maître Dominique, vous parlez tout à l'heure de la chambre de l'enfance délinquante qui existe bel et bien dans tous les tribunaux.
Effectivement, dans tous les tribunaux de paix, il y a une chambre spéciale pour enfants délinquantes qui est chargée de juger les enfants en conflit avec la loi. Et lorsqu'un enfant a commis une infraction et qu'on l'a appréhendé, on le présente devant le ministère public qui peut le présenter.
Il ne faut pas le battre.
Il ne faut pas le battre. Et dans ce
surtout
cas,
pas le torturer.
Effectivement, cela est interdit par la loi et on ne peut pas se faire justice. Dans le cas d'espèce, on ne peut pas parler de la légitime défense pour les cas de collusion, parce que la légitime défense consiste à repousser une attaque injuste. Mais dans le cas d'espèce, il n'y a pas d'attaque d'abord. On a trouvé un enfant, effectivement, en flagrant délit de viol. L'enfant a commet une infraction, mais n'a pas fait une attaque. Et que dès que l'enfant est maîtrisé, il n'a pas des forces pour pouvoir se défendre. Et on a commencé à les taper, ce qui est illégal. On devait les conduire devant le parquet. Non, il n'y a pas de légitime défense parce qu'on n'a pas répondu à une attaque de l'enfant.
Non, mais ce qui est inquiétant,
et même
c'est parce
si
que,
tel était le cas, l'attaque ou la défense doit être proportionnée à la force de l'enfant.
Oui, bon, maintenant là que c'est la population qui a infligé ce mauvais traitement à cet enfant, et ce mauvais traitement qui a fait qu'aujourd'hui cet enfant puisse se retrouver mort. Vous avez suivi la marche qui a été organisée pour protester contre ce genre de comportement. Alors, on va sanctionner maintenant la population. Je sais pas moi, comment ça va se passer? Quelle est la procédure à suivre?
Non,
parce que la société civile, si les ONG qui sont montées au créneau pour protester contre cet acte ignoble qu'on a infligé à cet enfant, quelle sera la procédure pour que effectivement on puisse dédommager la famille?
En principe, lorsque le parquet est saisi, le parquet doit ouvrir un dossier et mener des enquêtes. Si le parquet a eu l'information par dénonciation, les personnes qui ont fait la dénonciation au parquet seront entendues. Et si ces personnes ont pu retenir ou connaître l'identité de certaines personnes qui ont effectivement porté des coups sur les enfants, si ces personnes sont identifiées, on peut les poursuivre.
Oui, mais là, bien des cas, quand on amène ces enfants devant les cours et tribunaux, et après 2-3 mois, ils sont relâchés, et c'est ce qui parfois décourage la masse, la population.
Effectivement, la place de l'enfant n'est pas en prison. Et cela nous amène à faire un appel, un SOS, au gouvernement pour dire qu'il n'existe plus aujourd'hui des centres ou des établissements de rééducation des enfants en conflit avec la loi. C'est ainsi qu'on arrête des enfants, on les amène en prison avec des adultes et ils se frottent à la criminalité et échangent avec des adultes. Et
les
enfants sortent de la prison plus criminels qu'ils étaient entrés. Effectivement, on doit veiller à ce que les structures d'encadrement et d'éducation de l'enfant, des enfants en rupture familiale et d'encadrement des enfants et de rééducation des enfants en conflit avec la loi soient réhabilités pour pouvoir servir à cela. Mais ça, c'est une responsabilité première du gouvernement.
Alors, un enfant qui se retrouve dans cette situation, peut-il aussi saisir des instances?
Effectivement, il est un droit pour tout enfant victime des tortures, des mauvais traitements, des maltraitants, de saisir la justice. L'enfant peut porter ses faits à la connaissance de l'officier du ministère public et décliner l'identité de la personne auteur ou de la personne présumée auteur. Cette personne sera poursuivie au regard de la loi.
Et ça se fait gratuitement?
Effectivement, le dépôt d'une plainte n'est pas payant. Il n'y a pas de frais exigés pour déposer une plainte devant le parquet ou de la police.
Au niveau de l'ONG Avocats Sans Frontières, vous avez déjà eu à traiter ce genre de cas, un enfant qui vient peut-être vous confier le secret
Nous n'avons pas encore vécu un cas d'un enfant qui est venu se plaindre à la boutique des droits ou dans une autre structure, mais je me rappelle que dans la province de l'Équateur, lors de nos chambres foraines que nous organisons, il y a eu une dénonciation faite par une ONG contre un parent, un père, qui avait brûlé son enfant parce que l'enfant avait volé un peu d'argent dans la maison. Et ses papas étaient jugés et sanctionnés.
Et le proxénétisme, c'est également un mauvais traitement de l'enfant?
Le proxénétisme est une des formes des agressions sexuelles contre l'enfant. Et conformément au code de protection de l'enfant, cet acte est puni. Donc pour toute personne qui cherche à obtenir, à fournir, à offrir des enfants à des fins sexuelles moyennant une rémunération, ces personnes s'exposent aux sanctions qui peuvent aller jusqu'à 20 ans de prison.
20 ans de prison.
Effectivement, c'est la sanction que prévoit, c'est le maximum. La sanction peut aller de 10 à 20 ans conformément au code de protection de l'enfant.
Là, il s'agit dans le cas de prosélytisme.
Effectivement.
Mais pour le cas de mauvais traitement infligé à l'enfant, la peine peut aller de combien d'années à peu près?
Pour les cas, par exemple, des coups et blessures ordinaires, la peine peut aller de 3 à 12 mois de prison ou d'une amende de 100 000 à 250 000 francs congolais. Et ces sanctions peuvent être aggravées lorsqu'il s'agit, par exemple, de la préméditation. Dans ces cas-là, la sanction peut aller jusqu'à 2 ans de prison. Et lorsque les mauvais traitements ou les actes de torture infligés à l'enfant ont causé une maladie ou ont rendu l'enfant inapte pendant un temps, voilà, et la sanction à ce moment-là peut aller aussi jusqu'à 3 ans de prison et l'amende peut aller jusqu'à 300 000 francs congolais. Et aussi, lorsque les auteurs de ces actes sont les parents, c'est-à-dire le père ou la mère ou les tuteurs ou toute personne qui exerce l'autorité parentale sur l'enfant, dans ces cas-là, la loi prévoit encore des sanctions beaucoup plus graves. Dans ces cas, par exemple, la sanction pénale peut aller jusqu'à 5 ans de prison et même jusqu'à 400, voire 1 million de francs congolais d'amende selon les conséquences des actes posés.
Mais c'est le cas aussi
des tortures, des actes de cruauté posés sur l'enfant.
C'est ces parents qui ont l'autorité parentale sur l'enfant, ce sont eux qui assurent même l'existence de cet enfant, qui assurent même les droits fondamentaux, les droits à l'éducation, à avoir accès à la nourriture saine. Et ben, si aujourd'hui c'est cet homme est sanctionné, est mis en prison pour écoper 5 ans par exemple de peine, ça ne va pas causer du tort à l'enfant.
La loi, dans l'esprit du législateur, on s'est dit que les parents ou la personne qui exerce l'autorité parentale sur l'enfant est le premier responsable qui doit veiller au bien-être de l'enfant.
Tout à fait.
Et on ne comprend pas comment cette personne peut user de la violence excessive jusqu'à arriver à ce que l'enfant tombe malade ou arriver que la mort s'en suive. C'est pour cela que le législateur a prévu une sanction plus forte.
Voilà, maître Dominique, nous avons une réaction avant de clore cet entretien. Il y a Blanchard Loa depuis la ville de Mbandaka. Cet article 92 des lois sur la protection des enfants se trouve dans quel document?
Le Parlement a adopté, et le président de la République a promulgué, on l'a dit, le 10 janvier dernier, la loi portant protection de l'enfant. C'est comme ça qu'on appelle, ça s'appelle code portant protection de l'enfant.
Maître Dominique, merci d'avoir été des nôtres et bonne semaine.
Merci, J.R.